France Culture.
Le journal vous est présenté par Diane Berger.
Bonjour à toutes et à tous, il est 9h et vous écoutez donc France Culture. Tenir sans l'aide des Américains, les dirigeants européens envisagent tous les scénarios après les changements de politique internationale radicaux à la Maison-Blanche. Emmanuel Macron évoque notamment une dissuasion nucléaire européenne. Moins 25% en 6 semaines, le cours du Bitcoin se dégrade, les investisseurs se méfient. On vous explique pourquoi dans un instant. Au sommaire de ce journal également, la prévention du suicide chez les agriculteurs français. Leur profession est la plus touchée en France. Et puis la bibliothèque du Centre Pompidou ferme ce soir pour 5 ans, cela pour cause de travaux. Reportage à la fin de ce journal avec les habitués de son club lecture, quelque peu émus par la situation. Le rendez-vous est fixé à Londres aujourd'hui pour une quinzaine de dirigeants européens et Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada. Un sommet au Royaume-Uni pour discuter de l'Ukraine et de la défense européenne. Deux jours après cette altercation verbale violente entre Donald Trump, le président américain, et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. En pleine hausse des tensions entre le vieux continent et les États-Unis, une question commence à se poser. Faudra-t-il bientôt se passer de la protection américaine? Et si oui, comment? Le futur chancelier allemand Friedrich Merz demande que l'Europe se prépare au pire scénario, celui d'une OTAN dépourvue des garanties de sécurité apportées par Washington jusque-là. En réponse, Emmanuel Macron s'est dit prêt à ouvrir la discussion sur une dissuasion nucléaire européenne. Mais il ne s'agirait pas pour autant de partager les armes françaises avec les alliés. Éric Bigala.
Marine Le Pen a pour ainsi dire mis les pieds dans le plat en déclarant ce samedi que, je la cite, « la dissuasion nucléaire de la France doit rester française. On ne doit pas la partager », a-t-elle estimé. Réponse immédiate du ministre des Armées Sébastien Lecornu sur le réseau social X. « La dissuasion nucléaire restera française de la conception et la production de nos armes jusqu'à leur mise en œuvre. Mais ces armes doivent dissuader tout adversaire de s'attaquer aux intérêts vitaux du pays. Et ces intérêts comportent une dimension européenne », indique aussi le ministre. Alors quelle pourrait être une dissuasion française élargie à l'Europe, ça ne sera pas discuté publiquement. Mais en même temps, il faut montrer que cette force de frappe, elle existe, qu'elle est crédible. Et en général, cela se manifeste par quelques postures. L'une des plus classiques, c'est le survol d'une zone en particulier par un bombardier stratégique, potentiellement porteur d'une arme nucléaire. On pourrait très bien imaginer qu'un exercice poker de l'armée de l'air française, un raid nucléaire d'entraînement, ne se déroule plus dans le ciel français, mais ailleurs en Europe. Ce serait une manière de signaler que les intérêts vitaux français y sont désormais élargis.
Mais Eric Bigala, tout autre domaine où la politique de Donald Trump provoque des remous, le secteur des crypto-monnaies auquel le président américain a apporté un soutien sans faille. Le Bitcoin, la plus célèbre et la plus importante de ces monnaies, a atteint un record lors de l'investiture du chef d'État. Mais depuis, en 6 semaines, il a aussi perdu 25% de sa valeur. De fait, la politique commerciale erratique de la Maison-Blanche pousse les investisseurs à délaisser les cryptos, Julie Paco.
Si le secteur des crypto-monnaies a en partie financé la campagne de celui qui promettait de faire des États-Unis la capitale mondiale du Bitcoin, les investisseurs réalisent d'abord que les promesses faites par Donald Trump peine à se concrétiser.
Il y a quand même une image qui se dessine, qui est celle d'un marché qui n'est plus dans l'euphorie, mais plutôt dans le retournement.
Nastasia Hadjadji, journaliste spécialiste de l'économie numérique et autrice de Nos cryptos, comment Bitcoin a envoûté la planète.
Toutes les promesses que l'on a entendues lors de la campagne, que Bitcoin allait devenir une réserve stratégique, cette espèce de marketing politique qui a été extrêmement puissant durant la campagne, eh bien tout ça n'est pas advenu. Après, sur Bitcoin, il y a des facteurs plus microéconomiques. Par exemple, des gros de Wall Street se sont mis à vendre massivement leurs positions, ce qui a pour effet de marquer en fait une forme de chute de confiance dans le marché des cryptos et de Bitcoin en particulier. Et donc, le capital sort du marché et c'est quand même le signal qu'il y a comme ça une baisse tendancielle de confiance et donc le prix de l'actif s'effondre.
À cela s'ajoute une série de hacks, de vols ces dernières semaines, dont le plus important a eu lieu le week-end dernier. 1,5 milliard de dollars ont été dérobés sur une plateforme d'échange de crypto-monnaies par une organisation de hackers nord-coréens, d'après le FBI.
C'est vraiment l'illustration du caractère faillible de cette économie qui brasse des milliers de milliards de dollars, mais qui pour autant a des fragilités en matière de sécurité qui sont évidentes.
De quoi échauder un peu plus les investisseurs face à ces actifs spéculatifs et volatiles qui n'ont aucune forme d'ancrage dans le réel, conclut la spécialiste.
Julie Paco. Israël suspend l'entrée de marchandises et d'approvisionnement dans Gaza. Les autorités de l'État hébreu viennent de l'annoncer et surtout elles menacent d'autres conséquences, je cite, en cas de désaccord persistant sur la trêve. Le Hamas dénonce un chantage et un crime de guerre. Le mouvement islamiste palestinien demande l'application de la seconde phase de l'accord de cessez-le-feu, censé commencer aujourd'hui, avec pour objectif à terme la fin du conflit définitive dans l'enclave palestinienne. Israël soutient de son côté une proposition américaine qui consiste à prolonger la trêve dans sa forme actuelle jusqu'à la mi-avril, c'est-à-dire jusqu'à la fin des périodes religieuses du Ramadan et de la Pâque juive. 9h05, dernier jour du Salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris. Une vitrine pour mettre en lumière le monde paysan, ses produits, ses qualités, mais aussi ses problématiques, parmi lesquelles le mal-être des agriculteurs. Car c'est la profession la plus touchée par le suicide, et cela depuis une quarantaine d'années. Mais la sensibilisation commence à s'enraciner dans le milieu. Célia Gotti.
La dernière étude chiffrée sur le sujet remonte à 2017 et décomptait un suicide d'agriculteur tous les deux jours dans cette catégorie. Même certains facteurs augmentent les risques, analyse le doctorant en sociologie Romain Davière dans sa thèse sur le suicide paysan.
Si on prend un individu et que l'on lui rajoute la caractéristique sociale d'être un agriculteur, vous avez plus 20% de chances de se suicider. Si vous ajoutez à cela qu'il est un homme entre 55 ans et 65 ans et qu'il est orienté en élevage bovin-viande, il a 128% de chances supplémentaires de se suicider, toutes choses égales par ailleurs.
Les causes sont multiples, des difficultés économiques au surplus d'administratifs, mais c'est surtout la solitude qui pousse à l'acte dans un milieu où la santé mentale est tabou. Depuis la mission ministérielle de 2020 sur le mal-être paysan, les lignes ont tout de même bougé. En 2024, le numéro d'appel d'urgence santé mentale AgriEcoute a par exemple reçu 3500 appels, c'est 30% de plus que l'année précédente. Olivier Damézin est coordinateur national sur la prévention du mal-être en agriculture.
On a moins de situations dramatiques qu'avant, mais par contre on en a plus. De fait qu'on détecte mieux et qu'on informe mieux, il y a beaucoup de gens qui viennent vers nous. Les gens osent écrire à la MSA, osent téléphoner à la MSA, et avant ils n'osaient pas trop parce que s'ils leur devaient de l'argent, par exemple, ils n'allaient pas les appeler. Là ils ont bien compris que c'est un guichet unique, mais qu'il y a deux services complètement distincts, et que c'est pas parce que vous devez de l'argent à la MSA que la MSA va pas vous aider.
La MSA, Sécurité Sociale Agricole, a également renforcé son dispositif de détection. 8000 sentinelles ont été formées pour détecter la détresse des agriculteurs, 3000 de plus que l'objectif posé par le cadre légal.
Un sujet co-réalisé avec Eva Kling. La Cinémathèque française annonce ouvrir une antenne à Marseille, près du port, une extension de l'institution référence des cinéphiles du monde entier, prévue pour septembre 2026. Un autre lieu culturel emblématique ferme, lui, ses portes ce soir à Paris. La BPI, la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou, porte close pour 5 ans en raison de travaux de rénovation importants. D'ici là, les ouvrages vont être transférés aux Lumières dans le 12e arrondissement de Paris. Mais cela reste un moment particulier pour les habitués des lieux, notamment les membres du BPI Lecture Club qui se retrouvent tous les mois au cœur de la bibliothèque. Servane de Pastre, vous avez assisté à leur dernier atelier.
Ils sont une vingtaine autour d'une grande table carrée. Certains ont ouvert leur carnet, ils prennent des notes. Car pour cette séance spéciale, c'est l'éditeur et essayiste Johan Ferber qui a été invité.
La particularité de nos sociétés occidentales, c'est qu'elles se constituent autour du livre.
Comme à chaque rendez-vous, un thème a été fixé. Cette fois-ci, c'est le monde de l'édition. 4 livres ont été proposés aux participants. La discussion s'engage et les questions fusent.
Ça nous bouscule, quoi. Ça peut ébranler des certitudes ou des manières de penser.
Jean-Philippe a 70 ans, grand habitué du Centre Pompidou. Il vient au Lecture Club depuis sa création il y a 3 ans.
Alors parfois, je peux être en désaccord, des fois en accord, mais c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est à ne pas rester lecteur. Lecteur silencieux tout seul. Et là, ça va fermer, et après, ça va être des lieux éclatés. Enfin, moi, je perds mes repères.
L'émotion est là. Cette dernière séance au cœur de la BPI s'achève sous les applaudissements. Pour l'intervenant, Johan Ferber, c'était un moment très particulier.
C'est important parce que moi, en fait, ma formation intellectuelle, elle a été toujours faite en partie à Beaubourg, que ce soit dans la BPI, où j'ai beaucoup étudié, ou aussi dans les conférences qui ont été données. Et pour moi, Beaubourg, c'est vraiment le lieu d'une démocratie vivante, une vraie fête du savoir.
Cette fête du savoir se poursuivra malgré la fermeture de la BPI, c'est ce qu'assurent les organisateurs du Lecture Club. D'ailleurs, la date de la prochaine réunion est déjà fixée, ainsi que son lieu. Ce sera début avril au Café Mezzanine du Centre Pompidou.
La fermeture et le déménagement de la bibliothèque du Centre Pompidou, nous y reviendrons dans le journal de 12h30. Notre invité sera Clément Habert, réalisateur à qui l'on doit le documentaire Bibliothèque publique. Un mot très rapide de la météo et ce ciel ensoleillé sur une grande partie du pays aujourd'hui. Des nuages sont en revanche attendus sur les Pyrénées et le bassin méditerranéen.